L'idée, c'est effectivement, avec ces messages, de débroussailler, comme j'ai dit la dernière fois, parce qu'en fait, ce sont des textes, là, on a 10 chapitres. Hein. Pour Néhémie, on n'aura pas du tout le même problème, vous inquiétez pas. Pour Néhémie, on fera petite quantité par petite quantité, quelques versets à la fois. Mais Esdras, c'était pour que vous ayez un arrière-plan pour travailler sur les trios de croissance. Donc, l'idée là, c'est pas de tout retenir des 10 chapitres d'Esdras, c'est simplement de faire ressortir dans les chapitres d'Esdras quelques points importants qui peuvent parler à nos cœurs pour aujourd'hui. Parce que, évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous et des gens qui ont vécu dans un autre pays voilà, et Jésus n'était pas encore là, il y a 2500 ans. Mais vous savez, l'homme n'a pas changé et Dieu n'a pas changé non plus. Donc, il y a des choses qu'on peut récupérer et appliquer à notre vie. Donc, en fait, c'est ça que je vais faire. On ne fait pas une étude approfondie. Alors, quand vous tombez sur une généalogie, fils de, fils de, fils de, bon, vous pouvez laisser tomber, c'est pour les spécialistes. Hein, on peut occasionnellement s'en servir, mais voilà, ce n'est pas le but là. Le but, c'est de chercher les pierres précieuses pour nous, pour notre vie, nos relations, etc. dans la parole de Dieu, hein, donc que ce soit bien clair. Donc forcément, on survole un petit peu et puis on ramasse les pépites. Voilà, c'est un peu l'idée. Hein. Alors, donc, je crois que tout le monde a le contexte, vous vous souvenez, le peuple avait été déporté à cause de ses péchés, envoyé à Babylone, et puis Dieu avait dit que ça durerait 70 ans. Et vous savez bien que Dieu ne se trompe jamais. Et donc, un petit peu avant les 70 ans, il a commencé à éveiller l'esprit du roi Cyrus, un jeune roi perse, un combattant, qui, curieusement, a proposé aux enfants d'Israël de retourner chez eux et de reconstruire leur temple. Ça, c'est assez incroyable, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de peuples qui ont fait ça, mais c'était toute la lignée Cyrus, Darius, etc. On fait ça, donc c'est intéressant. Et donc voilà, on a commencé à voir la construction, vous vous souvenez, de l'autel, etc. Et les travaux avancent assez vite quand ils arrivent à Jérusalem. Les travaux avancent assez vite. L'autel est restauré et du coup les sacrifices aussi, ce qui est important puisque, comme l'a très bien expliqué, c'est Oscar tout à l'heure, je crois, hein, l'autel, ça servait à faire les sacrifices pour le pardon des péchés. Donc voilà. Et ils font une fête. Alors aujourd'hui, on a une fête, fête des décorations. Et ils font une fête pour la pose des fondations du temple. C'est important. Le temple avait été détruit. C'était un des plus beaux monuments de l'époque. Hein. C'est incroyable. Hein. Le temple avait été détruit. Et là, ces gens, cette première vague d'exilés qui rentrent, reconstruisent l'autel, refont les sacrifices, les fêtes et posent les fondations du temple. Donc, c'est super. Et un truc à remarquer. Qui est-ce qui est célébré ce jour-là? Ouais, Dieu nous a bénis, on est arrivé à la fondation du temple, on est bon, merci Zorobabel, c'était le gouverneur, merci Cyrus, le roi, merci Josué, le sacrificateur. On célèbre l'Éternel. Pourtant, tous ces gens-là, ils ont rudement participé, hein. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a choqué au passage. On ne parle pas beaucoup de Zorobabel et Josué. Zorobabel, le gouverneur, qui avait été nommé pour partir, hein, pour rentrer à Jérusalem, et Josué. Par contre, on en parle dans les prophéties. Ces gens étaient dans le cœur de Dieu. Mais je trouve que dans Esdras, sur les 10 chapitres, je n'ai pas compté, mais vous compterez si ça vous amuse, on n'en parle pas beaucoup. Parce que qui est-ce qui est au centre? Qui est souverain? C'est Dieu. Et l'homme, ce n'est pas ça l'important. L'homme peut changer. Zorobabel pouvait être très bon gouverneur, puis un jour devenir moins bon. Enfin, il peut arriver des tas de choses. Mais Dieu ne change pas. Et donc, on va célébrer l'Éternel. Et ça, c'est formidable. Ça m'a frappé. Parce que je pense quand même, moi, j'aurais eu envie de remercier les ouvriers qui avaient bossé jour et nuit, Cyrus, Zorobabel, Josué, etc. Mais ils n'ont pas perdu de vue qui les avait appelés et qui devait être honoré. Et dans notre vie, je pense que c'est pareil. Dieu peut placer sur notre route des gens qui vont être super, nous faire du bien, nous aider, etc. Chrétiens et non chrétiens d'ailleurs, hein. Mais qui est ultimement à honorer. Il faut être reconnaissant envers les gens, hein, la Bible dit. Mais qui est à honorer et à célébrer? C'est Jésus. Hein. C'est très très important. Cependant, il y a un petit problème. Tout au moins, moi, la première fois que je l'ai lu, je vous avouerai, j'ai trouvé que c'était un problème. Ceux qui avaient connu le temple le jour de la fête, ils pleuraient. Et vous savez, les gens d'Israël, c'est encore le cas aujourd'hui, vous voyez, au Moyen-Orient, on s'exprime. Hein. Et quand on pleure, on ne fait pas juste comme ça. Hein. Oh, c'est des cris, etc. Et curieusement, au moment de la pose des fondations, cette extraordinaire fête, eh bien, on va voir ce qui est dit. Ils se répondaient en louant et en célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Positif, formidable. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Et comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie et celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait de loin. Ah, il y en a qui pleuraient et il y en a qui se réjouissaient. Ah, alors, je ne sais pas si, quand j'étais jeune, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis dit, oh non, non, mais quand même, un jour de célébration. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui pleuraient, quoi? C'est pas possible. Et j'avais un petit a priori négatif. De me dire, ça se fait pas, quoi. C'était vraiment pas sérieux, un jour, pour remercier Dieu, voilà que ces gens qui pleurent. Et puis, quand je suis revenue sur ce texte pour travailler pour vous, j'ai relu, et j'ai relu, et j'ai relu. Vous savez, parfois, on sent si Dieu approuve ou désapprouve, hein, quand on lit un texte biblique. Donc, j'ai bien relu, j'ai bien relu. Je dis, non, c'est curieux, hein. Il raconte les fêtes, mais il n'y a pas de désapprobation. Alors Seigneur, ça ne te dérangeait pas, toi, qu'il y ait des gens qui pleurent pendant que les autres se réjouissaient? Ah, je me suis posé la question. Et puis je vois, et c'est évident, que Dieu est un Dieu qui nous comprend. Et il y a un chant que j'ai entendu, c'est les Gather, bien sûr, des chanteurs américains que j'écoute beaucoup. Ils ont fait un merveilleux chant sur l'Église. Et dans ce chant, ils disent, il y en a qui pleurent et il y en a qui se réjouissent. Parce que ça dépend des moments de leur vie aussi, hein. Et, bah oui, on peut pleurer dans l'église si on ne se sent pas bien. On peut se réjouir aussi quand tout va bien. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Donc finalement, si on réfléchit bien, ça ne dérange pas le Seigneur. Qu'il y ait à la fois des pleurs et des cris de joie, au même endroit, pour la même fête. Alors la Bible est quand même claire quand elle dit « Parmi les prêtres, les lévites, les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple, ils pleuraient tout haut pendant qu'on posait les fondations. » Bah bien sûr, eux, ils regardaient vers le passé. Ce temple extraordinaire qui était un monument célèbre dans l'Antiquité qui avait été rasé. Et Dieu comprend qu'il y avait de quoi pleurer. Il avait été rasé ce temple. Là, ils étaient sur les fondations, ils recommençaient à zéro. Et tous ces gens âgés, ben, ils avaient envie de pleurer, parce qu'ils pensaient à la gloire passée du temple de Jérusalem. Par contre, les autres, évidemment, ils regardaient l'avenir. Ils regardaient l'avenir, ils regardaient ce que Dieu allait faire. Ils regardaient ce que allait donner la construction de ce nouveau temple. Ils étaient enthousiastes, ça y est, enfin, on est arrivé aux fondations, l'autel c'est fait, les sacrifices sont en route, on fait la fête, les fondations sont là, Dieu va agir, Dieu va faire de grandes choses. Ah bien sûr, franchement, je sais pas, pour ceux qui ont construit leur maison, comme nous, je me souviens quand on a coulé les fondations, j'étais pas d'un enthousiasme délirant, j'avais pioché les fondations à la main pendant qu'André était au boulot et le soir il prenait le relais. Enfin, c'était pas particulièrement réjouissant, sauf si j'avais la vision de ce qu'on allait construire. Hein. Et c'est ça, ils avaient une vision pour l'avenir. Franchement, moi je trouve que des fondations, c'est pas réjouissant, c'est sale, c'est bête. Mais ils avaient une vision de ce qui allait se produire. Alors, on va dire, mais quand même dans la Bible, vous allez me dire, Michel, c'est bien joli ce que tu dis, mais dans la Bible, regarder en arrière, c'est pas bon. Souvent, la Bible dit, hein, vous avez des versets, je ne les ai pas recherchés, mais bon, vous les connaissez un petit peu, hein, celui qui met la main à la charrue regarde en arrière, ou bien ne regardez pas aux événements passés, etc. Bon, c'est un conseil qui est donné, mais c'est pas... Vous allez voir la différence. Où est le problème ? En tout cas, une chose est sûre, il n'y a pas de jugement de la part de Dieu. Vous avez envie de pleurer, vous êtes triste, il y a des choses qui vous font du mal. Dieu le comprend. Il le comprend tellement bien qu'il l'explique là. Ils avaient vu le premier temple, bien sûr. Pensez au passé. Et les autres pensaient à l'avenir. Mais il n'y a pas de jugement. Et ça, ça m'a fait du bien de penser que Dieu ne nous juge pas. On est dans la tristesse, même dans la dépression. Dieu ne nous juge pas. Vous ne trouvez pas ça formidable ? Parfois, on a l'impression qu'on est pécheur. Oh, on est déprimé, on est triste. Oh, Seigneur, je pêche devant toi. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et vous allez voir la différence. Là, il n'y a pas de jugement. Il y en a qui regardent vers le passé. Ils ont le droit au chagrin et ils pleurent. Il y en a qui regardent vers l'avenir. Ils ont droit à la joie et ils se réjouissent. Des cris de joie. Alors, il y en a qui pleurent sur ce que l'ennemi a détruit et il y en a qui se réjouissent de ce que Dieu va reconstruire. Mais Dieu accepte les deux choses. Et dans notre vie aussi, il accepte les deux choses. Et ça, c'est formidable. Dieu n'est pas dans le jugement. Il comprend. Alors, là, où est le problème ? Alors, on dit, oui, mais enfin, il y a des gens qui vivent tout le temps dans le passé, gna gna gna. Eh bien, le problème, c'est quand on regarde en arrière et que ça nous empêche de célébrer l'Éternel et ça nous empêche de faire le travail de construction. Là, il y a péché. Si je regarde tellement derrière que je ne peux plus célébrer Dieu de tout mon cœur, que je ne peux plus servir Dieu de tout mon cœur, que je ne peux plus bouger, je ne peux plus construire, là, il y a un problème. Vous voyez la différence entre pleurer sur un passé où Dieu avait béni, où il y avait des belles choses, et puis maintenant, il faut recommencer à zéro, et puis être tellement fixé qu'on est immobilisé. Vous voyez, il y a une grosse différence. Et laisser la tristesse nous immobiliser, arrêter de servir Dieu parce qu'on est triste, et qu'on est triste à juste titre, là, ça ne va plus. Vous voyez la différence. Mais on a le droit, et Dieu nous donne le droit à la souffrance, aux pleurs, au chagrin. Hein. N'ayez pas l'impression que voilà, j'ai du chagrin, donc oh, Dieu n'est pas content de moi. Bon, non, non. Là c'est clair hein, dans ce texte-là. Et puis, il y a l'autre côté aussi, les gens qui regardent que vers l'avenir. Alors, ça aussi, ça peut devenir un problème. Si je regarde tellement vers l'avenir, oui, il va y avoir ci, il va y avoir ça, je rêve, j'imagine, etc., et je ne prends aucune leçon de ce que Dieu m'a appris dans le passé. Le passé ne sert à rien. Parce que là, le passé, il devait leur servir à quelque chose. Vous avez désobéi, vous avez fait des injustices sociales. C'est ce que leur avaient dit les prophètes. C'est pour ça que je vais faire venir l'envahisseur et que je vais vous faire déporter. Il y avait une raison à la déportation. Il y avait une désobéissance. Et je suis très étonnée souvent, on n'en parlait pas beaucoup dans mon église, mais les injustices sociales, comment c'est dans le cœur de Dieu. C'est incroyable. Déporter la population parce qu'ils avaient été injustes avec les pauvres, avec les malheureux, etc. Alors, on peut être tourné tellement vers l'avenir qu'on n'en prend pas les leçons. On ne prend pas les leçons du passé. Alors là, c'est embêtant parce qu'on va recommencer et puis c'est bien de regarder devant et tout, mais il faut reconstruire et reconstruire le mieux possible. Il ne faut pas que ce soit une fuite en avant. Donc, là aussi, il peut y avoir un problème. Mais que dans la même fête, puisque c'était une grande fête, il y a des gens qui pleurent et des gens qui se réjouissent. Dieu l'a très, très bien accepté. Voilà. Donc, pas de jugement. Dieu ne nous juge pas quand on est dans la tristesse ou dans la joie. Parce que les autres auraient pu dire, oh, ouais, vous vous réjouissez, mais franchement, avec tout ce qu'on a vécu, on a été esclaves à Babylone, encore heureux que Cyrus nous ait permis de rentrer, mais quand même, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir, juste des fondations, etc. Hein? Non, il fallait se réjouir de ce qui était fait et garder les leçons du passé. Donc C'est formidable. J'ai été très touchée par ce texte. Vous voyez, c'est des petites pépites qu'on trouve dans ces textes de l'Ancien Testament. Voilà, c'est ce que je vous exhorte à trouver en vous mettant à la place des gens. Vous savez, c'est un peu la recette pour que la Bible soit vivante. Mettez-vous un peu à la place des gens. Et puis, surprise, on avait vu qu'ils reconstruisaient l'autel malgré la peur que leur inspiraient les habitants de la région. C'est un petit peu plus haut dans ce chapitre. Et ils ressentaient bien que ces gens, ça leur faisait peur, donc ils sentaient un peu une inimitié. Et puis là, d'un seul coup, curieusement, ces gens-là vont changer. Oh, c'est merveilleux. Nous voulons construire avec vous. Ah, nous adorons Dieu comme vous. C'était vrai ou c'est faux? Ben oui, c'était vrai, parce que c'était des déportés eux aussi. Ils avaient été envoyés à Jérusalem, parce que quand toute la population de Jérusalem a été chassée, ben, les villes se sont retrouvées vides. Les bêtes sauvages ont commencé à s'installer aussi, etc. La Bible en parle. Et il fallait repeupler ces zones. Ils ont pris n'importe qui, les Assyriens, et puis les Babyloniens, etc. Ils ont repris absolument n'importe qui pour remplir le pays. Mais c'était des gens qui adoraient d'autres dieux. Et à l'époque, et pour bien comprendre ces textes de l'Ancien Testament, il faut toujours se rappeler de ça. À l'époque, presque tous les peuples pensaient qu'à chaque région, il y avait un dieu qu'il fallait adorer, si vous voulez, qui vous soit favorable. Et ils savaient que Jérusalem, c'était le domaine de l'éternel Dieu d'Israël, donc il fallait l'adorer aussi. C'est ça le problème. On adorait ses idoles, mais on adorait aussi le Dieu d'Israël. Donc nous adorons votre Dieu, ben oui, c'était vrai. Et nous lui offrons des sacrifices. Oh ben ça, ils savaient faire. Mais c'est merveilleux dans ce texte, Zorobabel et Josué et le reste des chefs de famille d'Israël, une réelle unité, je suis même étonnée qu'ils aient tous compris le danger. Et ils ont répondu, voilà, on va lire, « Ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu, nous la construirons tout seul à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus de Perse. » Ah, il y a des moments où les textes sont importants. Cyrus avait bien dit « Qui est de son peuple ?» qu'il rentre à Jérusalem. C'était clair, c'était pas pour n'importe qui. Alors on va me dire « Bon, ça, c'est vraiment pas très tolérant. » Le problème, c'est que Zorobabel et Josué, ils n'ont pas craqué. Ils s'appuient sur le droit, c'est bien. L'ordre de Cyrus était clair. Et ils savaient que ces gens venaient d'autres régions. Alors évidemment, nous, quand on lit le texte, on dit « Oh, bon, ils sont pas sympas. On leur propose de l'aide et ils refusent. » Ah ouais, non, mais ils savaient à qui ils avaient affaire. Ces gens qui leur avaient déjà fait un petit peu peur autrefois. Et puis, ils ont vu qu'il y avait une fête. Ils se sont dit, on va se joindre à eux. Et pour eux, c'était simplement un Dieu comme un autre. Et ce n'était pas le cas d'Israël. Pour Israël, c'était l'éternel Dieu d'Israël. Il était exclusif. C'était que pour lui, la fête. Et ces gens-là n'avaient aucune idée de ce que Moïse, puis David, avait établi comme plan, comme matériau, comme symbole pour le temple. Je pense qu'ils auraient aidé à construire un temple, comme les leurs. Voilà, c'est normal. Et donc, ils refusent. Et la vraie nature de ces gens va se révéler. Une fois qu'ils refusent, aïe, 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 là, ces gens qui étaient, oh, on va construire avec vous, on adore votre Dieu, etc. On lui offre aussi des sacrifices. D'un seul coup, ils deviennent hargneux. Ils deviennent menaçants. Et puis, la Bible parle de, ils vont décourager, intimider, empêcher la construction, soudoyer les conseillers, fallait le faire, donc ils ont payé des conseillers de Zorobabel et Josué, hein, pour faire arrêter les travaux et faire échouer l'entreprise. Dis donc, quel revirement, hein. Et, bien sûr, c'est le travail de l'ennemi. L'ennemi ne voulait pas que ce temple se reconstruise. Et ben, le résultat, c'est que la stratégie de Satan a fonctionné. Et les travaux sont arrêtés. Alors, si mes calculs sont bons, là, s'il y en a qui veulent vérifier, il semblerait que ce soit 16 ans. 16 ans où les travaux ont été arrêtés, après cette merveilleuse fête. C'est terrible, hein, c'est terrible. Alors, pour ceux qui font les trios, le chapitre 4, les versets 6 à 24, ne concernent pas Esdras. Donc, vous pouvez les sauter, vous pouvez passer par-dessus. Il s'adresse à une période qui a lieu pendant le temps de Néhémie, donc plus tard. Ils sont là à titre de comparaison. D'ailleurs, vous le voyez au début. Ainsi, sous le règne d'Assuérus, ta-da-da-da-da-da. C'est comme si moi je disais, comme au temps de Gaulle, ba-ba-ba-ba-ba. Ou voilà, vous voyez, donc c'est une comparaison, vous pouvez laisser passer ces versets. Alors, je n'ai pas trouvé ça toute seule, hein, ne vous inquiétez pas, j'en suis pas là. Mais tous les commentateurs bibliques et les historiens ont vite compris que, évidemment, c'était Cyrus qui était roi, ce n'était pas Assuérus, et Assuérus, c'était sous Néhémie. Voilà. Mais il fait une comparaison parce que c'est un truc qui va se reproduire, on le verra là en détail, sous Néhémie. Alors maintenant, toujours ce petit exercice, quand vous lisez un texte comme ça, mettez-vous à la place des gens. Les travaux s'arrêtent. Imaginez le découragement, la peur. Mettez-vous à leur place. Le regret même peut-être d'être venu. Oh, Dieu nous a appelés. Essayez de dire qu'est-ce que vous auriez dit à leur place. Il a pourvu à l'argent, il a pourvu à plein de choses, on a tout quitté. On a fait des sacrifices, on a bossé dur. Et voilà, à quoi bon? À quoi bon? Puis est-ce qu'il nous a vraiment pardonné, le Seigneur? Pour qu'on en arrive là? 16 ans d'arrêt? Je ne savais pas que ça durerait 16 ans, mais il savait bien que ça allait durer un moment. C'est trop dur. Même les conseillers, ils ont fait tout arrêter. Même les conseillers. C'était peut-être pas la bonne vision. On s'est tous trompés. Ah, si vous avez une vision pour votre famille, pour votre travail, pour des relations, pour et que ça ne va pas, est-ce que ce n'est pas ça qu'on dit? Ou il n'y a que moi qui suis humaine ici? Hein, c'est ça. Et c'est ça qui nous plombe, hein, qui nous empêche de célébrer le Seigneur et de travailler. Non. Ils se sont arrêtés 16 ans, mais ils ont quand même repris après. Ça n'a pas changé depuis 3000 ans, on a les mêmes réactions. La dureté des circonstances fait que nous, chrétiens, on peut aussi se décourager et on peut déprimer après un coup dur. Hein, il y en a des coups durs dans la vie. La maladie, les soucis familiaux, les soucis de travail, les soucis financiers. Oh, il y a de quoi faire, hein. Il y a pas de... C'est comme ça. Et combien de missionnaires, ça c'est quelque chose qui fait vraiment mal au ventre, de serviteurs de Dieu ont tout lâché parce que l'ennemi a bien calculé son attaque. Et rappelez-vous comment il procède, hein, je vais redire. Découragé, intimidé, empêché, soudoyé. Soudoyé, c'est-à-dire payer quelqu'un pour qu'il dise autre chose. Et faire échouer la construction. Ça, c'est le travail du diable. Et combien de missionnaires, j'ai plein d'exemples en tête, ont vécu ça et ont craqué. Parce que l'ennemi, il arrive à faire ce travail, malheureusement. Et même chez des gens habituellement sages, arrêtez la construction, arrêtez. Vous allez avoir des ennuis si vous continuez. Ça va être trop difficile. Et alors, comme Élie, rappelez d'Élie. On va le faire, je pense, au point de la famille, si on le fait. Un chrétien peut être démotivé, découragé et même dépressif. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, mais non, un chrétien, il ne peut jamais être déprimé. Ah ! Et Élie, alors, c'était pas un homme de Dieu ? On ne lui arrive pas au petit orteil. Hein ? Et pourtant, il a été vachement déprimé. Et il y avait de quoi ? Alors, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu a attendu assez longtemps. Hein. Moi, je trouve que 16 ans, si j'avais été là au moment où ça s'est arrêté, au moment où la pause s'est arrêtée, j'aurais dit, Seigneur, pourquoi tu nous as fait arrêter 16 ans ? 16 ans, alors que la vision était claire, tu nous as donné les finances, on est arrivé à bien travailler dans l'unité et tout, et 16 ans d'arrêt. Eh oui, alors Dieu est bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Et là, j'aime bien cette partie. Il va faire lever deux jeunes prophètes. Alors, je me suis amusée à lire un peu la vie de Agé et Zacharie, tout au moins ce qu'on en sait dans la Bible. Et ils étaient tout jeunes, dis donc, tout frais. Et c'est eux qui vont remettre sur les rails la construction. Ils avaient des vraies paroles de Dieu. Alors, pas des prophéties, bon, comme ça quoi, mais vraiment des paroles de Dieu. Vous savez, prophète, ça veut dire quelqu'un qui parle au nom de Dieu. C'est sérieux. Et alors, vous pouvez les lire si vous avez envie. Hein. Lisez le livre de Zacharie et d'Agé, hein, je ne me trompe pas. Voilà. Et vous allez voir des choses fantastiques. Fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué. Et puis, cette magnifique prophétie sur Josué avec le turban, etc. Hein, ce n'est pas le Josué du début de l'Ancien Testament. Hein. C'est celui, le prêtre de cette époque-là. Des prophéties formidables. Et qu'est-ce qui se passe? Ils reprennent courage. Pourquoi? Premier, courage, ils avaient été, leur esprit avait été éveillé par Dieu. Deuxième, c'est les prophètes, les paroles de Dieu. Et on a besoin de paroles de Dieu pour continuer à marcher. Dans la famille, dans le travail, dans les visions qu'on peut avoir, dans les désirs, hein, pour ceux qui ouvrent des entreprises, je pense à vous aussi. On a besoin d'une parole de Dieu. Et pas n'importe quoi. Et cette parole de Dieu, elle était là. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, les prophètes sont restés à côté d'eux. Ces tout jeunes prophètes, remplis de l'Esprit de Dieu, ils sont restés à côté. Que Dieu place sur notre route des vrais prophètes avec des paroles de Dieu. C'est ma prière. On en a eu dans le passé. Malheureusement, ils ont déménagé pour des raisons personnelles, de travail. Mais on a besoin de ces prophètes qui ont réellement une parole de Dieu. Pas des paroles charnelles, mais des paroles de Dieu. Alors, bien sûr, ils décident de reprendre le travail après ces belles prophéties. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, devinez quoi ? Ben, l'ennemi recommence. Ils reconstruisent. Donc, l'ennemi revient. Apparemment, pendant ces 16 ans, il leur a fichu la paix. Mais il recommence à construire. Alors là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus. Et il va reprendre ses attaques. Et c'est le gouverneur de la région qui vient avec toute une équipe et qui leur pose des questions. De quel droit faites-vous cette construction ? Comment avez-vous eu les autorisations ? Et les avez-vous eues seulement ? Etc., etc. Alors là, je trouve que Zorobabel et les anciens qui étaient avec lui et Josué, j'admire leur réponse. Calme, cool. Ils avaient eu la parole prophétique, hein. Ils avaient la parole de Dieu. Ils savaient où ils allaient. Et ils sont très polis, ils sont très courtois, mais ils ne démordent pas. Hein. J'aime bien leur réponse. On va juste jeter un petit coup d'œil parce qu'elle est trop chouette, leur réponse. Donc à cette époque, un tel qui était gouverneur de la région, etc., et leurs associés vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ces murs ?» Nous leur avons donc dit quels étaient les noms des hommes qui reconstruisaient cet édifice. Ouais, ils avaient une liste des noms. « Cependant, Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cette affaire. » Et on a la copie de la lettre. Ils ne se sont pas démontés. Ils n'ont pas tremblé en disant « Oh là 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 là, ça va être terrible, on va encore avoir des ennuis, on va encore s'arrêter pendant 16 ans. » Non. Envoyez une lettre au roi, attendez sa réponse, et vous verrez, mais en attendant, nous, on continue à travailler. Moi, j'aurais dit « Bon, on attend la réponse, puis je me serais arrêtée, franchement. » Mais non. Les prophètes avaient parlé, la parole de Dieu avait été donnée. Et j'aime bien ce petit verset. Voilà, les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Donc ils n'avaient plus peur, la parole de Dieu était avec eux. Ils étaient restaurés. Et voilà. Et on a besoin de cette parole de Dieu. Alors on n'a pas forcément besoin d'un prophète, on a ces paroles de Dieu dans la Bible, dans nos cœurs aussi. Hein. Voilà. Alors, tout simple, ils vont faire appel aux écrits de Cyrus. Alors bon, il y avait quand même, c'est 1500 kilomètres à faire, chercher dans les archives. Alors c'est marrant, hein, ils expliquent tout. Ils vont chercher dans les archives, ils retrouvent l'ordre de Cyrus, qui était dans les archives, c'était un nouveau roi, hein, c'était Darius qui était là. Il a fait rechercher, et pendant ce temps, eux, ils ont continué à travailler. Hein, les paroles s'envolent, mais les écrits restent, et les écrits, ils les ont retrouvés, et les lettres échangées entre le gouverneur et le roi Darius en disent long sur le fait que Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Le courrier est revenu et ils ont pu terminer les travaux. Incroyable. Pourtant, cette fois-là, c'était risqué. Hein. Les travaux étaient terminés et puis c'est la dédicace du temple, puis la célébration de la Pâque. Entre les travaux étaient terminés. Alors je crois, il me semble avoir calculé, vous pouvez peut-être vérifier, il me semble que c'est 4 ans, hein. Et les travaux du temple ont été terminés. Devinez combien d'années après le retour, après la déportation, 70 ans, comme Dieu l'avait dit dans ses prophéties. C'est incroyable. Hein, c'est Dieu est parfois extrêmement précis. Les travaux terminés, donc dédicace du temple, célébration de la Pâque, le temple est reconstruit. Waouh ! Paraît qu'il était très beau. Hein, j'ai lu ça dans des livres d'histoire. Parce que je cherche aussi dans l'histoire, parce que vous savez, c'est pas des contes de fées la Bible. Hein. On retrouve plein d'éléments dans l'histoire. Et donc le verset 21, par contre, On va terminer avec ça, tant pis, on n'a pas tout terminé, mais le verset 21 est très intéressant, chapitre 6, verset 21. Chapitre 6, vous allez voir, il y en a, ceux qui connaissent bien les Juifs, ils vont être un peu surpris. Les Juifs, issus de l'exil, célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. En effet, les prêtres et les lévites s'étaient purifiés. Donc, vous voyez, ils suivent vraiment ce que Moïse avait dit. Tous étaient purs. Ils sacrifièrent l'agneau pascal pour tous les Juifs issus de l'exil, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Donc, Oscar a expliqué tout à l'heure l'importance des sacrifices. Les Israélites revenus d'exil mangèrent le repas de la Pâque. Ah, et là, je suis surprise. De même que tous ceux qui avaient pris leur distance d'avec les pratiques impures des nations installées dans le pays et s'étaient joints à eux pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors on se dit, bah tiens, ceux qui voulaient les aider tout à l'heure, là, ils leur ont refusé. Et puis là, ils mangent la Pâque avec des gens du pays qui ne sont pas juifs. Alors je ne sais pas si je me trompe, Marie-France, mais il me semble que ce n'est pas facile de manger la Pâque avec un juif, même encore aujourd'hui. Mais il faudrait demander à Aurèle Vidal, mais je crois que c'est pas simple de se faire inviter pour fêter la Pâque. Et même nous chrétiens, on a quand même le même Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout est dans ce verset. Ils avaient pris leur distance avec les pratiques impures, c'est-à-dire l'idolâtrie. Vous savez, ça allait jusqu'au sacrifice d'enfants. C'était pas de la rigolade, l'idolâtrie. C'était pas juste « j'aime mon porte-monnaie », c'était vraiment bien pire que ça. Et ils avaient pris leur distance, et deux, ils recherchaient, ils s'étaient joints à eux pour rechercher l'Éternel. Et là, ils ont mangé la Pâque avec eux. Alors après, on va dire « oh oui, mais dans la Bible, soit il y a des enfants qui disent ça, il y en a que pour le peuple d'Israël ». Non, c'est pas vrai. Ceux qui recherchaient l'Éternel, ceux qui coupaient avec l'idolâtrie, des peuples des alentours. Ils étaient accueillis. Manger la Pâque avec eux, c'était quelque chose. C'était quand même un repas d'alliance. Voilà. Et on va terminer avec ça pour dire, c'est formidable. Ils ont fait la différence entre les gens qui faisaient semblant. On va construire avec vous, etc. Et puis, ceux qui peut-être le faisaient simplement pour que le Dieu d'Israël ne leur tape pas dessus, parce qu'il y avait cette peur que le Dieu du lieu devienne méchant. Mais ce n'était pas les bonnes motivations. La bonne motivation, c'est de couper avec l'idolâtrie et de rechercher l'Éternel. Et là, c'est la bonne motivation pour construire et pour vivre avec les Juifs retournés en Israël. Et je crois que tout est là. Bon, j'avais encore un tout petit peu, mais bon, on verra ça peut-être plus tard. Mais je crois que là, vous voyez, on trouve des choses, on trouve des trésors dans des petites histoires comme ça. La recette, mettez-vous à la place des gens. Essayez de vous dire, moi à leur place, comment je réagirais? Moi, en général, je ne réagirais pas très bien. Donc, ça m'aide à comprendre. Voilà, il n'y a pas besoin d'être des grands intellos pour étudier la Bible. Tout bêtement, comme un enfant, oh, et moi j'aurais fait ça, et moi j'aurais pas fait ça. Oh, moi j'aurais pas pris les choses comme ça. Voilà. Et là, vous rentrez dans le texte, et le texte vous apporte des super belles choses. Voilà. Donc j'espère que je vous donne des clés là pour les trios, parce que quand vous allez échanger avec donc à l'intérieur du trio, puisqu'il y a une réunion où vous êtes les trois ensemble, échanger ces choses-là. Moi, il y a tel texte qui m'a parlé. Alors moi, c'est cela, mais vous, ça sera peut-être d'autres. Et ah oui, parce que moi, à leur place, j'aurais fait différemment et je voyais pas Dieu comme ça, etc. Vous voyez ? J'espère vous donner des clés pour qu'au moment où vous allez être ensemble, vous puissiez bien vous amuser aussi, parce que c'est amusant les réactions des uns et des autres. Il y en a qui vont dire « Oh non, moi ça m'aurait rien fait », puis l'autre « Oh, moi ça m'aurait scandalisé !» Voilà, et vous allez vivre des bonnes choses, et voilà, j'espère vous rapprocher de la parole de Dieu, vous rapprocher les uns des autres, voilà. Seigneur, je te remercie parce que j'aime tellement ta parole, et je voudrais vraiment que je sois terriblement contagieuse, et que chacun ici puisse vivre de ta parole et trouver tous ces petits trésors qu'on trouve à droite à gauche qui nous font du bien. Nous voulons, Seigneur, en tant qu'Église, je le crois, rechercher l'Éternel. Rechercher l'Éternel et nous couper de toute l'idolâtrie du monde qui nous entoure et qui finit par déteindre sur nous. Seigneur, vraiment, on veut vraiment faire cette fête de Noël. Nous, c'est pas Pâques, mais ça va être Noël avec toi, en recherchant l'Éternel de tout notre cœur, avec nos familles. Amen. Voilà. Un tout petit truc que je voulais dire avant, Oscar a très très bien parlé de la famille et fêter Noël en famille, c'est extraordinaire. S'il y en a qui sont intéressés, on a développé avec mes enfants et les petits-enfants des habitudes où on chante, on prie et on fait des petits papiers pour que les enfants lisent la Bible. Et tous nos enfants maintenant participent, sauf le petit dernier qui ne lit pas encore. Mais je parle des petits-enfants, oui. Et donc, voilà, si vous voulez que je vous explique ce qu'on fait, puis après vous, vous pouvez broder, mais vous donner une petite idée de ce qui peut être fait en famille et qui est tellement enrichissant, surtout quand on prie. Et j'étais tellement contente le jour où mon aîné, à 5 ans, au moment de prier, a dit « Merci Seigneur parce que tu es le plus grand cadeau ». J'ai dit « Là, il a compris le sens de Noël ». Voilà. Donc si vous voulez, je vous expliquerai, je vous montrerai ce que nous on fait. Ce n'est pas l'idée de copier, hein, mais de vous donner des pistes pour faire un Noël comme on fait nous depuis qu'on est mariés. Hein. Et vous savez, c'est très enrichissant ce Noël. On y tient beaucoup. C'est un temps qu'on passe devant Dieu avec les enfants et les petits-enfants.